Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, on va ouvrir donc le livre de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre 2, on va donner une suite à ce que nous avions vu il y a quelque temps. Il s'agit de l'église de Smyrne, tout simplement. Je voudrais faire un rappel qui peut être intéressant. Il est question de cette église dans ce chapitre 2 et le chapitre 3, avec sept messages qui correspondent à un condensé de l'histoire de la foi chrétienne à travers 20 siècles de christianisme, c'est-à-dire du moment de la mort de Jésus, de sa résurrection et puis aussi de son ascension. Alors, il est donné dans ces quelques lettres, eh bien, les points forts, les points faibles, les succès de la foi chrétienne et puis aussi ses défaites. Nous avions commencé la fois précédente, enfin si on se souvient, de l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, je voudrais la situer finalement eh bien, dans cette suite de siècles. C'est la première église, c'est-à-dire c'est l'église du premier siècle, où nous avons à travers le rapport du livre des Actes, eh bien, tout ce qui s'y est fait, tout ce qui s'y est passé. On pourrait dire que c'est l'église du réveil évangélique. Jésus a dit, vous irez par tout le monde, vous prêcherez la bonne nouvelle à toute la création, et voici, eh bien, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est l'église primitive, l'église première, et nous voyons que cette église a été marquée par des choses extraordinaires. Les miracles, les prodiges, les résurrections, les guérisons, et tout cela manifesté par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, quand il les a envoyés, eh bien, vous ferez encore de plus grandes choses que j'en ai faites. Et c'est vrai que lorsque nous lisons le développement de ce livre d'histoire qui est le livre écrit par Luc, le livre des Actes des Apôtres, eh bien, c'est des choses extraordinaires. On l'appelle également, cette église du premier siècle, l'église apostolique, c'est-à-dire l'église des apôtres, qui ont, eh bien là, obéi tout simplement à l'injonction de Jésus de prêcher l'évangile. Et puis nous nous apercevons que dans le caractère même de cette église naissante, dans le premier siècle, eh bien, en quelque sorte, ce qui a été l'entraînement, on pourrait dire le starter, eh bien là pour le monde entier, eh bien cette impulsion donnée au christianisme repose sur trois vérités, la foi, l'amour et la grâce. Et nous voyons que cette église de ce premier siècle a été finalement, eh bien, à la conquête du monde. Jésus leur a dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre et vous prêcherez le royaume de Dieu. Mais à la fin de ce premier siècle, les premiers chrétiens vont perdre de la vitesse. C'est pour ça que dans l'église d'Éphèse, il y a des compliments, il y a des encouragements, je connais ton travail, ton labeur, ta persévérance, ton discernement, etc., etc. Mais à un moment donné, il y a aussi un premier avertissement, pourrait dire une première remarque du Seigneur, qui est basée sur un essoufflement, une baisse en quelque sorte de régime, une lassitude des chrétiens, un découragement, un fléchissement de la pression spirituelle, de l'amour du Seigneur en quelque sorte, et de son œuvre. Et nous voyons qu'il y a déjà un premier déclin qui va se marquer. Et Dieu va dire par ce message dans cette lettre, il va reprocher la perte du premier amour. Nous allons voir maintenant la deuxième phase de cette église à travers eh bien, l'église de Smyrne. Je vais lire le texte et puis je vais donner quelques commentaires. Église de Smyrne, et nous voyons qu'au chapitre 2 et au verset 8, je le lis. Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il était mort, mais il est revenu à la vie, il est vivant, la résurrection de Christ. Dieu dira, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Dernier avertissement, encouragement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, nous sommes en présence d'un changement dans l'Église première, dans le christianisme, et l'Église de Smyrne, nous pouvons faire un premier état des lieux en quelque sorte, parce que cette Église a été appelée, après les miracles, après la conduite du Saint-Esprit, chose extraordinaire, nous voyons que cette Église a été appelée l'âge des grandes persécutions des chrétiens. Alors nous avons tous été à l'école et on nous a appris que le christianisme, pendant à peu près 2 siècles, a été combattu terriblement à travers ce que nous rapportent finalement les chroniques. Et nous voyons que cette persécution va durer donc 200 ans en gros, et va se terminer avec l'édit de Milan en 313, à partir du moment où un empereur va arriver, il s'appelle l'empereur Constantin, et nous le verrons la fois prochaine. Et nous voyons que, là, il va y avoir un changement. Cette Église, après avoir connu l'impulsion et les choses extraordinaires par le Saint-Esprit, sur la fin du premier siècle, va commencer à s'essouffler en quelque sorte. Et là, quelque part, nous pouvons dire que Dieu va susciter, à travers, et c'est terrible de le dire, mais des épreuves. Une Église qui va être de plus en plus menacée, et dans cette menace qui va peser sur l'Église, symboliquement l'Église de Smyrne, nous allons voir qu'il va y avoir un réveil tout à nouveau. Vous savez, les réveils ne viennent pas quand tout va bien. Un réveil et les réveils spirituels sont arrivés souvent quand les choses, étaient menaçantes, lorsqu'il y avait des crises, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient d'une façon ou d'une autre, ou sociales. Alors à ce moment-là, ceux qui portent en eux la foi en Jésus-Christ, au lieu de s'endormir, vont se réveiller pour faire face. Et les difficultés et les épreuves, on le sait, ont toujours eu pour vertu de nous amener à nous rapprocher du Seigneur, ou alors de nous en éloigner complètement. C'est ce que Jésus dit par rapport à la parabole du semeur, quand il dit que les gens reçoivent l'évangile, etc., etc. Et dès qu'il y a une épreuve ou une tribulation, certains abandonnent. Mais par contre, il y en a d'autres, devant cela, vont réagir en disant « Mais nous nous endormons, nous ne voulons pas fléchir et nous allons revenir vers le Seigneur, et c'est lui qui va nous donner la force de triompher de toutes ces difficultés. » Et c'est bien le problème, c'est bien, non pas un problème, mais l'exemple qui nous est présenté à travers tout simplement l'église de Smyrne, qui est une ville de Turquie aujourd'hui, Izmir, une grosse ville. Alors, l'église chrétienne, en quelque sorte, est en butte avec toutes sortes d'hostilités de son environnement. C'est l'Empire romain, toujours, on est toujours dans l'Empire romain, et nous voyons que cette hostilité, que cette opposition va devenir quasi générale. Il va y avoir les autorités impériales, c'est-à-dire l'Empire, il va y avoir même tous les peuples autour vont se liguer contre les premiers chrétiens pour les détruire, pour les éliminer. Et nous voyons que cela porte sur une raison principale, c'est que dans ce monde païen, dans ce paganisme environnant, les chrétiens sont des hommes et des femmes qu'ils ne veulent pas se plier publiquement, et même que ce soit même en secret, pour adorer l'empereur qui est à Rome, qui est en quelque sorte divinisé. Alors en raison de cela, ils vont passer pour des anarchistes, les chrétiens vont passer pour des révolutionnaires, pour quelque part des gens qui font de la subversion finalement dans l'Empire. Et c'est pour cela qu'on va essayer de les éliminer. Et on s'aperçoit que, quand on regarde le contexte est même dans notre lecture, on s'aperçoit très vite que les premiers chrétiens, les chrétiens de l'Église, symbolisés par Smyrne, ce sont des pauvres gens, ce sont des pauvres, ce sont des esclaves, ce sont des gens simples, et qui n'espèrent plus finalement, eh bien, au bonheur sur la terre, mais qui, selon les paroles que Jésus a laissées dans les Béatitudes, « Heureux vous qui pleurez, heureux vous qui souffrez, heureux vous qui êtes persécutés ». C'est ça, et ça, ça prend toute son sens et sa valeur de ce que Jésus a dit. Et l'Évangile est venu particulièrement pour consoler, pour encourager, pour fortifier la foi de tous ceux qui sont malheureux. Malheureux sur la terre, que ce soit sur le plan physique, comme cela est le cas, et que ce soit aussi ceux qui sont sur le plan moral et dans bien d'autres domaines. Alors ça, c'est l'Église de ce temps-là, avec des gens qui n'ont plus aucune espérance. Ce ne sont pas les rois de la terre qui espèrent en Dieu. Ce n'est pas les notables et les grands de ce monde qui espèrent en Dieu, mais ce sont les petits, ce sont ceux qui sont écrasés, ceux qui sont méprisés, ceux que l'on considère comme des sous-hommes, parce que dans l'Empire romain, c'était ça. L'esclave et puis les chrétiens, c'était véritablement des gens qui n'avaient même pas finalement la considération de l'humanité, quoi qu'il en soit. Et nous apercevons qu'il y a trois défis à relever pour cette malheureuse Église, cette Église des grandes persécutions, des grandes tribulations. Trois défis à relever, nous l'avons lu, les tribulations, l'indigence ou la pauvreté et la calomnie. Et les peines qui étaient infligées finalement aux chrétiens, c'était la prison. C'était tout simplement les supplices, les travaux forcés, les jeux du cirque ou alors tout simplement les bûchers. Voilà, et ça on l'a appris à l'histoire. Quand on nous dit là que, d'ailleurs, on le voit même dans nos villes du sud de la France, les arènes, ça servait, c'était pas pour faire du football ou du rugby, c'était les stades de l'époque, mais ça servait aussi à ces jeux cruels où là on y mettait toutes sortes de gens et entre autres les chrétiens qui étaient dévorés par les bêtes sauvages et toutes sortes de choses. Ça, c'était l'âge des grandes persécutions, deuxième et troisième siècle. Premier siècle, on l'a vu, c'est Éphèse. Deuxième siècle, c'est Smyrne. Le slogan que nous pouvons citer de cette église persécutée, de cette église opprimée, c'est un peu les paroles de l'apôtre Pierre, quand à la belle porte du temple à Jérusalem dira « Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous le donnons au nom de Jésus. » Et ces chrétiens-là, réveillés, à cause de la persécution, à cause des horreurs d'une vie épouvantable qu'on leur faisait subir, pouvaient dire « Nous n'avons ni or ni argent, mais il y avait quelque chose qui faisait la compensation et qui était bien infiniment supérieur à l'or et à l'argent, c'était tout simplement la plénitude du Saint-Esprit. » Parce que finalement, ils étaient malheureux. Et parce qu'ils n'avaient aucun secours sur la terre, en bas sur la terre, ils se tournaient vers le ciel, et c'est Dieu qui, finalement, leur donnait cette force de l'esprit pour surmonter tout ce qu'ils avaient à surmonter. Et c'est une église riche, parce que je voudrais quand même le dire, Dieu dira, je connais ton affliction, ta persécution, tes tribulations et la pauvreté. Et Dieu dira, mais bien que tu sois riche, pauvre matériellement, mais riche spirituellement. C'est ça la grande différence. On peut s'en souvenir de cette église qui était l'église de la menace en quelque sorte, mais ils ont résisté. Ils ont été plus forts en quelque sorte. Et il y avait dans cette période certainement une profusion de miracles. Peut-être pas comme le premier siècle, bien qu'il y avait certainement encore cette impulsion de la vie de l'esprit, mais des miracles de foi, mais aussi des miracles de l'amour. Parce que quand on est persécuté dans une communauté, dans une église, on se serre les coudes. Il n'est pas question qu'on se divise à ce moment-là, qu'on se critique. Il n'est pas question de la mauvaise langue et de dire « celui-ci, celui-là ». Non. On se soutient quand c'est comme ça. Et c'est peut-être le malheur de nos églises d'aujourd'hui, où peut-être nous n'avons plus rien à faire que de parler les uns sur les autres. Enfin, d'une manière, c'est pas pour vous que j'ai dit ça, mais quelque part, voilà. Mais quand on est solidaire de la souffrance des uns et des autres, on l'a vu, derrière le rideau de fer, pendant des années, dans les pays de l'Est, je peux vous dire qu'il y avait une foi, une ferveur, une intensité de charité, de communion fraternelle, parce que finalement il y avait des pouvoirs qui persécutaient les chrétiens. Et aujourd'hui ça se retrouve dans d'autres pays. Et ça c'est extraordinaire. Ça cimente en quelque sorte, ça scelle notre vie, notre communion fraternelle et notre amour pour Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que même si l'Église est dépossédée, démunie, impuissante, je sais que tu as peu de puissance, nous l'avons lu il y a un instant, mais à ce moment-là il y a une autre puissance qui vient finalement dominer tout cela, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est le feu de l'Esprit. Alors privée de biens matériels, l'église de Smyrne, mais finalement elle abondait en richesses de spirituel, de foi. Il y a une troisième chose qui est donnée. Je connais ton affliction, ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, c'est quelque chose aussi à souligner. Les premiers chrétiens, et particulièrement ceux qui se sont convertis, finalement même issus du judaïsme, étaient persécutés par leurs coreligionnaires, en quelque sorte leurs anciens coreligionnaires. Et quand Jésus dit, enfin quand la parole de Dieu ou l'Esprit de Jésus dit, mais il se dit juif, des vrais juifs, mais finalement, eh bien, leur Dieu, c'est pas Yahvé, mais leur Dieu, c'est Satan, en quelque sorte, par les œuvres qu'il manifeste. Et il y avait à ce moment-là aussi, elle avait à subir la pauvreté, l'indigence, également, nous l'avons vu il y a un instant, eh bien, toutes sortes de choses, mais il y avait également la diffamation. Ils se disent, ils ne le sont pas, mais les calomnies, il est parlé de calomnies. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas nous étonner nous-mêmes, parfois, si parfois, nous, les églises, églises évangéliques, églises chrétiennes, églises où il y a des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, on nous calomnie et on dit du mal de nous. Nous faisons passer pour une secte, par exemple. Nous faisons passer pour, là, eh bien, quelque part, des gens qui veulent bouleverser le monde avec, eh bien, le message de l'Évangile. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus, on a pensé que c'était un empêcheur de tourner en rond, un sectaire, un usurpateur. Alors, je ne voudrais pas dire que c'est bon signe, puisqu'on a dit au maître, on a dit du maître ce qui peut être dit. Je pense que le maître, l'élève n'est pas plus grand que le maître, hein, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et il y avait une campagne pendant ces deux siècles de calomnie contre les chrétiens qui avait été, qui était outrageusement et injustement finalement calomnié ou dénigré. Et tout était bon pour accuser finalement eh bien les chrétiens. On faisait circuler des légendes, oui, c'est-à-dire que des légendes criminelles en accusant les chrétiens qu'ils commettaient des choses dans leur culte. Eh oui, on pensait que finalement le culte qu'ils rendaient à leur Dieu, à Jésus-Christ, était des cultes qu'ils rendaient à Satan. Et on disait toutes sortes de choses. Et ça ne faisait qu'activer ou réactiver finalement les persécutions. Voilà. Personne n'avait vérifié ce qui se passait quand les chrétiens priaient, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, quand ils adoraient Dieu. Alors on a fait courir toutes sortes de choses. Les faisant passer pour, finalement, eh bien là, faisant de la magie, toutes sortes de choses. Et le monde, il continue à faire comme ça. Ça, c'était les caractéristiques de l'église de Smyrne dans le premier siècle. Mais pourtant, elle reçoit un encouragement, cette église. Un encouragement du Seigneur, sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu dit par son esprit, sois fidèle jusqu'à la mort. Pour un peuple qui souffre, comme pouvaient souffrir les premiers chrétiens du deuxième et troisième siècle, Dieu leur donc donne cet encouragement à la fidélité. Et il n'y a aucun reproche dans cette lettre. Il y a deux lettres dans l'Apocalypse, il y a l'église de Smyrne, il y a l'église de Philadelphie, où il n'y a aucun reproche, il n'y a que des encouragements, parce que ce sont des églises qui, et celles-ci en particulier, sont sans puissance. Il est dit, mais je sais que tu as peu de puissance, que finalement, eh bien, là, hein, tu comptes sur moi, tu comptes sur ma force et sur mon esprit. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'épreuve stimule la foi et la vie spirituelle. Alors on va pas dire, Seigneur, envoie-nous des épreuves, parce que ça va nous réjouir. Hein. Ça, je pense qu'il faut être un petit peu... Non, mais de toute façon, c'est pas la peine de les demander, ça vient tout seul. Hein. Et vous savez, on a vécu pendant, certainement, eh bien, des moments de paix hein, dans notre pays. Mais ça n'a pas été le cas pour, finalement, certaines périodes, certains siècles, hein, où les chrétiens étaient pourchassés comme des bêtes, comme des animaux. La réforme est là pour nous le dire, hein, et nous rappeler comme cela. Et c'était encore une église chrétienne qui persécutait, finalement, la foi des chrétiens authentiques, des chrétiens de l'Évangile, des chrétiens nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est terrible, cela. Comme les Juifs persécutaient, quelque part, eh bien, ceux qui avaient cru en Christ, hein, tout simplement. Et ce message est donné comme un exemple de foi. Oui, un exemple de foi vivante. Alors, si l'on relit les choses, Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est notre tout, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, il est le premier et le dernier, et nous n'avons rien à craindre parce que c'est lui qui fait, finalement, eh bien là, le début et la fin de notre vie. On peut le prendre de cette manière. Il était mort. C'est curieux, hein? On n'a jamais cette phrase. Dans notre monde, dans notre humanité, on peut dire « il était mort » et « il est vivant ». On ne dit pas ça, « il est mort ». Il n'y a plus rien après. Ben oui, mais pour nous montrer que notre défenseur, que celui qui vient au secours, finalement, de cette église fidèle, de ces chrétiens fidèles, eh bien, n'ont rien à craindre, puisqu'il est vivant. Il est revenu à la vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors, on ne peut pas dire ce que sera demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Mais il y a une chose que l'on sait, c'est que Jésus revient bientôt, et là, il va y avoir une grande confrontation entre les ténèbres et la lumière, entre la vie et la mort, entre la vérité et l'erreur, entre le ciel et l'enfer. Parce que vous savez, ce qui était au début, ça peut se retrouver à la fin. Oui, le début du christianisme, ça peut se retrouver à la fin. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est quelque chose de terrifiant, c'est quelque chose d'épouvantable pour les non-croyants, mais c'est notre espérance pour nous, hein. Et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas à avoir peur du message de l'Apocalypse. Au contraire, levez vos têtes parce qu'il revient bientôt, et c'est lui qui va vous délivrer. Vous êtes des rachetés, le Seigneur, eh bien, est proche à la porte. Il nous est même dit que tant que nous sommes sur terre, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, en captivité, dans les chaînes, dans toutes sortes d'épreuves. Mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Qu'est-ce que nous voulons? C'est une couronne de laurier, périssable, qui va faner? Ou est-ce que nous voulons vraiment la couronne de vie? Parce qu'elle est promise à chacun d'entre nous. Hein, pour l'instant, on la voit pas trop sur nos têtes. Hein. Moi, je porte un chapeau. Mais bon, on peut pas dire que c'est une couronne. Un couvre-chef, exactement. Mais nous l'avons déjà. Couronne de la vie. C'est une belle expression. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est le message qui était donné hier à Éphèse, premier siècle, qui était donné aux chrétiens dans le deuxième et troisième siècle, c'est-à-dire l'église des grandes persécutions. Celui qui vaincra, celui qui gardera la foi, celui qui sera fidèle, celui qui résistera, celui qui gardera l'Esprit de Dieu et la parole du Seigneur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oui. On passera peut-être par la mort physique, à moins que le Seigneur nous enlève. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons déjà l'assurance que nous sommes sauvés pour l'éternité et que notre destination sera la gloire dans le royaume de Jésus-Christ, dans le ciel, à toujours et à jamais, alors que le Seigneur nous bénisse. À travers tout ce que nous pouvons connaître, ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras, parce que le Seigneur, c'est lui qui revient, et c'est lui qui nous encourage aujourd'hui à rester fidèles envers et contre tout. Cette église du premier siècle, eh bien, a connu tout cela, mais Jésus lui a donné la couronne de vie. Nous allons prier quelques instants. Amen, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu nous encourages, tu donnes cette force à nos cœurs, tu nous donnes de regarder en haut et non pas en bas. Tu ne veux pas que nous nous laissions effrayer, Seigneur, par tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, à travers ces crimes, à travers ces meurtres, à travers ces attentats. Et pourtant, Seigneur, ils ne sont pas dirigés directement vers nous, mais néanmoins, Seigneur, nous sommes solidaires de cette humanité. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous savons que si nous avons la liberté et la vie, aujourd'hui, c'est que d'autres ont payé le prix fort pour que nous puissions avoir la liberté de conscience, que nous puissions vivre, Seigneur, en effet, Père éternel, eh bien, dans l'expression, Seigneur, de cette foi en Jésus-Christ et de pouvoir la proclamer autour de nous. Merci, Seigneur, pour ces églises primitives. Merci, Seigneur, parce qu'il nous donne l'exemple de ce que nous pouvons résister au mal, de ce que nous pouvons vaincre par la prière de l'Esprit et de ce que nous croyons, Seigneur, que le Seigneur n'est pas loin de nous. Il est près de nous, il combat avec nous, il est vainqueur de toutes nos luttes, de toutes nos difficultés. Et nous voulons croire, Père éternel, que par son Esprit, Seigneur, et la plénitude de son Esprit, eh bien nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et nous le croyons, nous te faisons confiance et nous espérons en ton secours. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.